21h, France Info, les informés, Pierre Neveu.
Bonsoir, heureux de vous retrouver, heureux de vous accueillir sur le plateau des informés du dimanche soir sur France Info, la radio, France Info, la télévision, canal 27 de la TNT, France Info, les réseaux sociaux, franceinfo.fr. Pour débattre de l'actualité de ce dimanche, j'accueille, je retrouve avec plaisir nos débatteurs. Brigitte Boucher, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Journaliste bonsoir. Sur la chaîne LCP. Notre partenaire le dimanche soir, Jean-Christophe Plequin, de la rédaction du journal La Croix.
Bonsoir
également.
Bonsoir à tous.
Jérôme Sainte-Marie, politologue, président de la société d'études Pollingvox. Bonsoir également Hervé Gauthier, qu'on retrouve avec plaisir, de la rédaction du service économique et social de France Télévisions. Et on vous retrouve tous les matins de la semaine, dans la semaine de l'écho, c'est bien ça?
C'est ça.
Sur la télévision,
Pierre,
canal 27 de la TNT. Allez, au sommaire de ces informés de France Info. Les gilets jaunes, ils ne désarment pas, le mouvement s'est poursuivi ce dimanche. La France des territoires se fait toujours entendre, mais demain, lorsqu'il faudra retourner au travail, que deviendra ce mouvement qui n'est pas structuré? Emmanuel Macron, Édouard Philippe perdent des points dans les sondages, mais ils continuent l'opération déminage dans les médias. Édouard Philippe est ce soir sur France 2. Après la colère des gilets jaunes, le président et le premier ministre devront affronter cette semaine la grogne des élus. Les maires de France montent à Paris avec toujours plus d'inquiétude quant au financement des communes. Ajoutez à cela une fatigue croissante face aux responsabilités. D'ailleurs, un maire sur deux n'envisage pas de se représenter en 2020. Et puis, dans ces informés du dimanche, nous parlerons de cette droite qui se revendique conservatrice. La droite de sens commun qui a invité à sa table aujourd'hui le patron des Républicains, Laurent Wauquiez, autour de thèmes comme la famille, l'identité, les frontières, l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Soyez les bienvenus sur le plateau des informés. Alors on commence ce débat bien sûr par l'épisode 2 des Gilets jaunes avec une deuxième journée de mobilisation ce dimanche, des barrages filtrants, des opérations escargots. Hier, le ministre de l'Intérieur annonçait presque 300 000 participants manifestants au cours de 2000 barrages. François Drugy notamment ce matin expliquait que par le passé on avait déjà connu pareil des mobilisations, mobilisations peut-être plus importantes disait-il, notamment lors de la manifestation pour tous lors du précédent quinquennat. Et à ce moment-là, le gouvernement n'avait pas reculé. Alors, que pensez-vous de ces gilets jaunes? Échec ou succès? Je m'adresse à vous, Jérôme Sainte-Marie.
Oui, mais il me semble que c'est, on peut difficilement nier que ce soit un succès, tout simplement parce que c'est un mouvement qui ne ressemble pas aux autres. Donc les comparaisons faites par M. François Drugy ou d'autres ne tiennent pas.
Par le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, hier soir.
M. Castaner a dit qu'effectivement, ça prouvait qu'il y avait plus de gens qui étaient restés chez eux que des gens qui avaient mis un gilet jaune, mais avec de tels critères, si vous voulez, aucun mouvement n'existe jamais. Donc c'est un propos absurde qu'il a tenu là, soyons clairs. Non, c'est un mouvement qui est plutôt une réussite. Pourquoi? Parce que vous savez, c'était vendredi soir, avant l'événement. On n'était pas sûr du tout que ça se concrétiserait. C'était jusqu'à présent uniquement une émulsion comme ça sur Internet et avec des gens qui devaient se rendre avec d'autres personnes qu'ils ne connaissaient pas réellement, sans aucune structure d'encadrement, pour des rassemblements qui étaient, on le savait dès le départ, risqués, potentiellement conflictuels. Il faut bien voir qu'on n'a jamais vu, je pense, un mouvement aussi spontané. Même les bonnets rouges étaient, vous savez, il y avait le patronat,
il y avait
local,
une organisation,
etc., oui. Existait. Là, je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent, que 300 000 personnes aient choisi d'aller passer dans le froid ou l'humidité quelques heures avec une tenue peu saillante
jaune fluo.
Et sur les routes me paraît très significatif.
Est-ce que, la question qui nous vient à l'esprit, est-ce que ce mouvement peut durer? Tiens, Brigitte Boucher, demain, tout le monde va reprendre la direction du travail, de l'école, amener les enfants à l'école, aller au supermarché, sur les marchés, faire ses courses, la vie reprend. Est-ce que ce mouvement qui n'est pas structuré peut durer? C'est là la grande question, l'incertitude.
Déjà, pour revenir sur ce que dit Jérôme Sainte-Marie, il n'est pas structuré, mais il est quand même plus organisé que ce qu'on pensait. On s'est quand même laissé tous un petit peu surprendre, même si dans les dernières heures, on voyait qu'il y avait des mobilisations un petit peu partout. L'ampleur est quand même assez importante pour cette forme de jacquerie du net un peu nouvelle, et ça a mobilisé quand même plus que pour la loi travail. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de comparaison parce qu'il y avait des organisations syndicales derrière, mais il y avait quand même une forte hostilité à cette loi. Elle a réuni moins de monde que dans la rue hier. Alors, vous me demandez si ça peut durer. Effectivement, ça peut s'essouffler parce que ce...
C'est le quotidien qui reprend à partir de demain.
Alors oui, mais certains veulent poursuivre et certains ont posé une semaine de vacances, donc il y en a déjà qui voudraient continuer le mouvement. On voit déjà qu'aujourd'hui, il s'est quand même considérablement amenuisé par rapport à hier. Il y avait 2000 sites qui étaient bloqués, aujourd'hui quelques 150, je crois.
Donc, mais des grands axes symboliques, des péages autoroutiers à Bordeaux, juste avant
voilà,
Bordeaux,
non,
la rocade
blocage,
de Rennes.
Il y a des blocages, il y a des opérations escargots et ça gêne considérablement. Cela dit, on ne pourra pas tenir très longtemps. La différence des organisations syndicales, c'est qu'il y a des caisses, vous savez, qui sont organisées. C'est ce qui a permis à la SNCF, par exemple, de pouvoir tenir très longtemps avec cette grève perlée.
La CGT, en l'occurrence,
est-ce que les gens auront les moyens, déjà qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, et ils le disent, voilà. Est-ce qu'ils auront les moyens, tout simplement, de faire grève ?
Hervé Gauthiot, pour prolonger le mouvement, il faudrait que s'agrège des routiers, des agriculteurs. Ils ont l'habitude, ils ont les moyens techniques pour bloquer, pour paralyser le pays, pour faire des actions ?
Oui, effectivement. Moi, je pense, un peu comme Jérôme Sainte-Marie, que finalement, ce mouvement d'hier est... on va voir s'il se prolonge ou pas, ne se mesure ni au nombre de manifestants, ce qu'on pourrait aussi dire que finalement il y avait plus de gens dans la rue que dans les manifestations contre la loi travail, voilà, ni dans le temps, et que finalement il y a quand même un message à entendre, c'est qu'effectivement ces gens-là qui se sont mobilisés avec pour seule colonne vertébrale effectivement les réseaux sociaux, sans chef, sans organisation, enfin une organisation
désordonnée.
Voilà,
autoproclamée.
Enfin, autoproclamée effectivement, ils ont quand même réussi à s'adresser directement au gouvernement et au chef de l'État qui ont quand même intérêt à entendre le message. Et ils sont passés quand même par-dessus, ils ont enjambé d'une certaine manière les corps intermédiaires traditionnels qui sont là pour cristalliser les malaises,
et qui n'existent
comme
plus,
les syndicats ou les partis politiques.
Ils n'existent plus en ce moment.
Voilà, donc je pense que et les syndicats et les partis politiques, ont, quels qu'ils soient, ont également à entendre ce message de cette France qu'on veut soi-disant être périphérique, des gens qui ont tout simplement du mal à boucler les fins de mois, qu'on a vu hein, dans les manifestations, qui sont des bons pères de famille, des bonnes mères de famille qui tenaient des propos souvent plutôt concis. Il y avait aussi des excités, évidemment. Mais enfin, au global, on avait quand même des gens qui n'étaient pas des fans de la manifestation et qui ont fait entendre leur voix.
On va poursuivre ce débat concernant cette mobilisation des Gilets jaunes. On va suivre, bien sûr, sur l'antenne de France Info, l'intervention du Premier ministre Édouard Philippe qui doit intervenir dans le journal de 20h de France 2 dans un instant. On vous en dira les grandes lignes de son propos que l'on commentera dans un instant. Restez avec nous, les informés sur France Info à 20h10. On fait un point sur l'info avec vous, Romain Desec.
Édouard Philippe qui vient à l'instant de commencer son intervention sur France 2. Première réaction du Premier ministre suite à la forte mobilisation des Gilets jaunes. Il y a encore eu des rassemblements aujourd'hui en moindre quantité. Quelques incidents ont eu lieu dans l'Aisne, le Cher, à Reims également. Certaines portions d'autoroute ont été bloquées ou filtrées. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron est venu célébrer le jour du souvenir en Allemagne. Journée de commémoration pour toutes les victimes de guerre. Il s'est exprimé devant le Bundestag et appelle l'Allemagne à renforcer ses liens avec la France afin que l'Europe soit plus forte. Le chef de l'État a fait le parallèle entre l'époque que nous vivons et celle des années 30. En Israël, le gouvernement de Benjamin Netanyahou en difficulté depuis la démission du ministre nationaliste Avigdor Lieberman. Il ne possède qu'une voix de majorité au Parlement et cet après-midi, les négociations avec l'un de ses partenaires ont échoué. Le Premier ministre refuse toujours d'organiser des élections anticipées. Trois immeubles évacués cet après-midi à Marseille, deux semaines après l'effondrement de deux bâtiments tuant 8 personnes. Une vingtaine d'habitants sont relogés, d'autres ont pu regagner leur immeuble. Depuis le drame de la rue d'Aubagne, plus d'un millier d'habitants ont dû quitter leur logement. Et puis un sixième titre pour Sébastien Ogier. Le Français a été sacré lors de l'ultime manche du championnat du monde des rallyes en Australie. Il a profité des fautes de Thierry Neuville et Ott Tanak et se rapproche à 3 titres du record de Sébastien Loeb.
France Info. Les informés, Pierre Neveu.
On poursuit ce débat des informés de France Info avec vous quatre. On va vous entendre, on va vous donner la parole. Jean-Christophe Plequin, notre partenaire de la Croix, à l'instant le Premier ministre dit sur France 2, j'ai entendu la colère, la souffrance, le sentiment d'abandon des Français. Ce sont là les premiers mots du Premier ministre.
Bah, je pense qu'il tient compte, effectivement, il prend en compte ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire du succès de cette manifestation. Et en même temps, jusqu'à présent, l'exécutif a dit, mais on continue les réformes, et notamment tout ce qui est fiscalité écologique. Donc, je pense que si on se projette sur les jours qui viennent et est-ce que le mouvement va durer, je pense qu'il ne pourra durer que si, effectivement, il s'organise. Et s'il s'organise, c'est autour de quelles revendications ? Je crois que sur les barrages, on a entendu quand même beaucoup de choses. On a entendu des revendications qui étaient plutôt d'ordre économique, d'ordre social.
Et d'ordre politique.
Certaines qui étaient d'ordre politique.
On a entendu Macron démission. Politique,
voilà, exactement. Et donc, sur quoi est-ce que ces gens, effectivement, extrêmement divers, qui se sont rencontrés sur le bord de la route, vont s'accorder? Il y a quand même aussi des militants politiques qui faisaient partie des manifestants. On sait qu'un certain nombre de partis ont dit, vous y allez, vous ne manifestez pas en tant que militant politique, mais vous y allez en tant que, voilà, à titre personnel. Et donc, comment est-ce que peut coaguler un mouvement qui rassemble finalement des éléments aussi divers? Ça va être très compliqué. Moi, j'ai le sentiment que quand j'entendais Olivier Besancenot ou quand j'entendais Bertrand Philippot,
Florian
Philippot, voilà, ils étaient tous les deux à essayer de tirer vers eux finalement les manifestants. Et donc, voilà, à qui? Il y a un magot électoral, un magot politique. Qui est-ce qui va mettre la main sur le magot?
Sur ce magot, sur ce commentaire de cette opération des Gilets jaunes, je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention de l'interview de Marine Le Pen. C'était ce matin dans l'émission Le Grand Jury sur RTL et LCI. La présidente du Rassemblement National dit que ces Gilets jaunes révèlent une inquiétude, une colère des Français. Elle demande au gouvernement d'entendre cette colère et elle nomme les Français, écoutez bien, par ce qu'elle appelle le peuple central.
C'est pas la France d'en bas. C'est ce que j'appelle moi le peuple central.
Ouais.
Voilà. C'est le peuple central. C'est celui qui est trop pauvre pour être riche et trop riche pour être pauvre. C'est celui qui n'est pas assez pauvre pour pouvoir bénéficier des aides, des primes à la conversion, des aides diverses et variées qui sont mises en place pour tenter de limiter l'appauvrissement de notre pays, qui ne sont pas évidemment assez riches pour aujourd'hui faire face à l'ensemble des augmentations qui pèsent sur eux. Comprenez? Et cela, cette France, ce peuple central-là, il est en train de souffrir. Jusqu'à présent, il souffrait silencieusement. Mmh. Aujourd'hui, il ne veut plus se soumettre.
Jérôme Sainte-Marie, c'est un marqueur, ce peuple central, dans le discours de Marine Le Pen, qui ne veut pas parler de la France d'en bas, qui ne veut peut-être pas parler de la ruralité. C'est un mot important.
Oui, probablement, parce qu'effectivement, la France périphérique n'est périphérique que vue de Paris, si j'ose dire. Et qu'en réalité, effectivement, ceux qui se sont mobilisés hier pour aller sur le terrain, disons, eh bien, c'est sans doute tout ce qu'on a pu constater. Ça se voyait dans les sondages pour le soutien à ces manifestants, et puis tous ceux qui sont allés participer au cortège répètent à peu près la même chose, c'est des gens qui sont dans le corps moyen de la France. Le corps moyen de la France, ce ne sont pas ce qu'on appelle les classes moyennes, qu'on identifie plus ou moins au cadre. Le corps moyen de la France, c'est ceux qui gagnent, la plupart d'entre nous, qui gagnent autour du salaire médian qui est en France de 1 700 € par mois, après l'impôt. Donc vous voyez, c'est des gens qui payent 150 € par mois pour leur essence. Et donc, c'est très concrètement pratiquement 10% de leur budget. Donc, si vous voulez, c'est des gens qui ne sont pas effectivement dans la misère, qui ne sont pas exclus, mais qui vivent perpétuellement dans l'insécurité financière et qui ne veulent pas payer autant de taxes avec moins de services publics.
Brigitte Bouchet, le Premier ministre dit à l'instant, le cap que nous avons fixé est le bon, nous allons le tenir. Voilà, on sait ce que dit le Premier ministre, c'est-à-dire on ne change pas de politique. Est-ce qu'on peut dire que le Premier ministre, comme le gouvernement, entre à présent dans le dur après 18 mois de présidence, de gouvernement? Il y a des réformes qui sont passées, comme la réforme de la SNCF l'année dernière, mais il reste encore beaucoup de réformes à faire passer, notamment la réforme des retraites, la réforme de l'État.
De l'assurance chômage, il y a beaucoup de réformes à venir et qui sont très difficiles.
Alors le gouvernement, le président, aussi, ils sont dans le dur là en ce moment?
Oui, ils sont dans le dur. C'est vrai qu'après un an où tout est passé plus ou moins facilement, ou en tout cas sans grosses difficultés, là, le Premier ministre et le président de la République se retrouve dans des difficultés d'un autre ordre, c'est-à-dire des difficultés qu'il n'avait pas anticipées, qu'il n'avait pas prévues, et puis dans l'attente de résultats. Vous savez que Emmanuel Macron a été quand même élu sur une politique efficace et qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de résultats qui se font sentir. Donc oui, c'est difficile. Après, le Premier ministre a dit ça ce soir, mais le contraire aurait été étonnant. François de Rugy, qui a pris la parole aujourd'hui dans le Parisien, expliquait qu'effectivement, il entendait la colère et qu'il ne comptait pas changer de cap et poursuivre donc ces réformes. Aujourd'hui, le risque pour le gouvernement, c'est de reculer. Et s'il recule, après, c'est toute la volonté réformatrice du chef de l'État, c'est tout son programme qui est remis en question. Donc, il faut absolument tenir. Après, il y a certaines mesures qui ont été annoncées cette semaine. Il a dû lâcher un petit peu. Il y a une possibilité de lâcher un tout petit peu en 2019 sur la loi mobilité, peut-être on verra ça à l'Assemblée, mais en clair, le gouvernement veut tenir le cap et veut faire ce qu'il a dit, c'est-à-dire transformer, faire de la fiscalité écologique et pas de la fiscalité sur le travail.
Le Premier ministre dit, on a entendu la souffrance des Français, nous allons tenir le cap. Jean-Christophe Ploquin.
Oui, donc parce que le
on n'est pas droit, on n'est pas droit dans ses bottes, on est droit dans ses pompes.
À essence. En tout cas, oui, c'est ça. En tout cas, le projet du gouvernement, c'est de réformer l'économie de façon à déverrouiller un petit peu le système. Bon, bah, il continue là-dessus. Moi, je ne sais pas si où en est la bataille de l'opinion. Est-ce qu'on sait vraiment si tous les Français sont derrière les gilets jaunes? On a vu qu'il y avait des oppositions quand même qui étaient réelles. Et donc, est-ce que dans les jours prochains, de même que pour la grève à la SNCF, elle a duré très longtemps, et il y avait une sorte d'opposition larvée ou de consensus mou, soit pour, soit contre, mais elle a fini par passer, donc c'est peut-être ce qui attend ce mouvement aussi.
Je crois que la bataille de l'opinion, on a vu le dernier sondage qui a été publié aujourd'hui, qui montre que le président de la République est à 25% seulement d'opinion positive.
Je ne parle pas du président de la République.
Oui, mais justement, je pense qu'il faut aller au-delà du problème des gilets jaunes. On a l'impression quand même qu'on a un président de la République et un gouvernement qui se prennent porte sur porte, si j'ose dire, dans la figure, l'histoire de la taxation sur les carburants. Demain, ça va être la grogne des maires de France sur la suppression de la taxe d'habitation.
Des infirmières qui vont se mobiliser mardi.
Et en même temps, ils donnent l'impression de ne pas réussir à capitaliser sur les choses sur lesquelles ils devraient capitaliser, comme par exemple la hausse du salaire net avec la suppression d'un certain nombre de cotisations sociales, la suppression de la taxe d'habitation qui va quand même profiter à un certain nombre de gens.
Et on a
l'impression qu'il y a un manque de lisibilité d'un seul coup.
Mais il y a l'étiquette de président des riches.
Il n'arrive plus à se faire entendre. Et il garde effectivement cette étiquette de président des riches.
Moi, je posais la question du mouvement. Je posais la question du mouvement des gilets jaunes.
Oui, est-ce qu'il est populaire?
Moi,
j'allais
ou pas,
au-delà.
On ne sait pas.
On va poursuivre ce débat dans les informés de France Info. Avant cela, on fait un nouveau tour d'horizon de l'info à 20h20 avec vous, Romain Desec.
Nous allons tenir le cap, la fermeté d'Édouard Philippe face au mouvement des Gilets jaunes. Invité de France 2, le Premier ministre dit comprendre le ras-le-bol fiscal, la souffrance, le sentiment d'abandon. Mais il ne plie pas, il déplore également certaines scènes d'anarchie sur certains sites de blocage hier. La mobilisation des Gilets jaunes qui s'est poursuivie aujourd'hui avec environ 150 points de rassemblement. Des incidents ont encore eu lieu entre automobilistes, CRS et manifestants. À Caen, les gendarmes ont délogé un millier de personnes sur le périphérique sud, tandis qu'à Rennes, l'occupation de la rocade se poursuit à l'heure actuelle. Le poste de Manuel Valls à l'Assemblée nationale laissé vacant, les électeurs de la première circonscription de l'Essonne étaient appelés à élire son successeur ce dimanche. Premier tour de la législative partielle, 11 candidats en lice. Les résultats seront connus dans la soirée. L'arrivée d'Apple sur les Champs-Élysées ne satisfait pas tout le monde. Plusieurs dizaines de militants de l'organisation altermondialiste ATTAC se sont réunis devant le magasin. Ils dénoncent les pratiques d'évasion fiscale du géant américain. Et puis l'Italie exige une renégociation du prêt des tableaux de Léonard de Vinci à l'occasion des 500 ans de la mort de l'artiste. L'Italie s'était engagée à prêter tous ses tableaux au musée du Louvre l'an prochain. Seulement, la nouvelle ministre italienne de la Culture, membre de la Ligue, n'est pas d'accord. Les Français ne peuvent pas tout avoir, dit-elle.
France Info. Les informés, Pierre Neveu.
Alors, on le savait depuis ce matin, quelle serait la teneur des propos du Premier ministre ce soir. On a entendu la souffrance des Français, on gardera le cap. Voilà ce que dit ce soir Édouard Philippe sur le plateau du 20h de France 2. Et ce matin, dans l'émission Questions politiques de France Info, France Inter, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, avait lui aussi dressé un petit peu le message du chef du gouvernement en disant « Pas question de sombrer dans un mea culpa pas absolu ni dans l'autosatisfaction. » On écoute un extrait de cet entretien.
Ce qui excite la colère aussi, c'est quand les gens ont le sentiment qu'ils ne sont pas écoutés. Quand on nous donne le sentiment que c'est Paris contre le reste de la France, quand on donne le sentiment que c'est les élites contre le reste du pays. Or, ce n'est absolument pas notre démarche. Donc, nous ne disons pas qu'il n'y a pas un problème. Au contraire, nous le reconnaissons. Maintenant, il faut discerner les bonnes et les mauvaises raisons de tout cela. Il y a ce qui relève de questions objectives, les difficultés de pouvoir d'achat des Français. Il y a ce qui relève de questions subjectives, les problèmes peut-être aussi de pédagogie de notre part. Il y a aussi ce qui relève d'autres raisons subjectives, c'est-à-dire tous les ventilateurs à problème que sont certains porte-voix dans l'opinion, qui cherchent un petit peu à attiser les difficultés. Et donc, il faut discerner les raisons. Et on ne va pas sombrer ni dans un mea culpa absolu, ni dans l'autosatisfaction. Il faut être dans une ligne d'équilibre. Et pour cela, il faut être sérieux, il faut être raisonnable.
Jean-Christophe Ploquin, dans cette déclaration du ministre de l'Éducation nationale, j'ai retenu un mot, malheureusement, les ventilateurs à problème. C'est qui pour vous les ventilateurs à problème? Ouais, c'est l'opposition, sont les médias aussi, on est tous dans le même
alors
bain.
Je pense qu'il désignait sans doute un certain nombre de leaders de l'opposition, sans doute les médias aussi. Moi je pense que les leaders de l'opposition, je disais tout à l'heure, ils ont dit à leurs militants, si vous avez envie d'y aller, allez-y, mais discrètement. Et je pense qu'ils n'ont pas cherché à récupérer dans un premier temps, ils ont vu ce mouvement qui venait un peu de nulle part et qu'ils n'avaient pas eux-mêmes organisé. Ils n'ont pas cherché à capitaliser dessus, je dirais, immédiatement pendant le week-end. C'est dans un deuxième temps qu'ils vont essayer aujourd'hui, dans les jours prochains, de tirer un petit peu les fils vers eux. Mais ensuite, effectivement, alors c'est vrai que sur les médias ont été extrêmement concentrés sur la question des gilets jaunes la semaine dernière et ce week-end. Donc,
il y avait des images.
Évidemment qu'il y a un effet d'entraînement vraisemblablement de l'événement.
Jérôme Sainte-Marie.
Oui, non, je voudrais...
Le gouvernement ne pouvait pas reculer. Ça aurait été un signe de fébrilité, de toute façon.
Il peut toujours reculer. Vous savez, les gouvernements reculent de temps en temps. C'est pas très grave.
Mais
voilà. Non, je pense qu'il aurait du mal, effectivement, à reculer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en termes d'opinion, il est ramené, on a dit 25% de popularité pour Emmanuel Macron, il est ramené à sa base réelle, celle qu'il a élue, c'est-à-dire les 24% de premier tour. Un des problèmes de Macron depuis le départ, c'est qu'il n'a pas eu de second tour, si vous voulez, normal en quelque sorte, et que donc il n'a pas eu de concession idéologique à faire, et donc il est resté droit dans son idéologie libérale et pro-européenne. Si il cherche à élargir, enfin à retrouver un peu d'oxygène dans l'opinion, il est obligé de renoncer en grande partie à son programme libéral et européen. Les gens ne veulent pas de ça, ils comprennent bien que si on dit c'est du pouvoir d'achat en plus parce qu'on supprime vos cotisations sociales, ils comprennent bien qu'on leur supprime un salaire différé. C'est quand même un tour de passe-passe un peu trop simple. Tant et si bien que, si vous voulez, ils sont là. On est dans une situation politique qui va devenir assez intéressante, au sens assez tendu, parce que, effectivement, le gouvernement et Emmanuel Macron ne peuvent pas changer de ligne. Et en étant aujourd'hui en Allemagne, eh bien, d'une certaine manière, Emmanuel Macron envoie un signe très fort de fidélité à son désengagement européen. Et en même temps, une majorité de l'opinion n'en veut pas. Il y a donc une confrontation dont l'épisode d'hier n'a été, à mon avis, qu'un premier élément.
Hervé Gauthier, est-ce que cette fronde des gilets jaunes, c'est l'illustration que la parole politique traditionnelle ne porte plus?
Oui, ou qu'elle porte, ou qu'elle porte trop bien, au-delà de ce que le politique aurait souhaité. D'où on a l'impression quand même que. J'ai eu plusieurs fois l'occasion ici même de parler d'une certaine forme de populisme du centre un peu inventé par le président de la République qui veut montrer qu'il parle directement au peuple. D'ailleurs, on l'a vu lors de l'itinérance mémorielle où qui s'est transformé finalement en une espèce de bain de foule permanent où il est allé vraiment au contact. Hein, pour le coup, il faut lui reconnaître qu'il est allé directement discuter avec les gens. Mais et puis avec des partis politiques qui ont beaucoup de mal à se relever effectivement de l'élection présidentielle de 2017. avec des syndicats qui ont beaucoup de mal à se relever des échecs successifs de la mobilisation contre la loi travail ou contre la réforme de la SNCF. Donc avec, on en parlait tout à l'heure, des corps intermédiaires qui se sont retrouvés quand même relativement atone et un peu neutralisé. Et donc effectivement, on a un peuple qui entend qu'on lui parle directement et qui répond directement. Et ça, pour le coup, c'est assez inattendu et c'est assez inédit.
Brigitte Boucher.
Ce qui est intéressant dans ce qu'a dit Jean-Michel Blanquer, par exemple, ce que dit tous les dirigeants politiques là en ce moment, François de Rugy aussi aujourd'hui, et le Premier ministre, c'est qu'il y a une forme d'humilité, je trouve. Ils se disent que, vous disiez tout à l'heure, est-ce que la politique finalement passe mal? En réalité, il faut l'expliquer, sa politique, il faut se faire comprendre, et il faut un petit peu d'empathie. Et je crois qu'au début, le programme a été donné comme cela, et il fallait l'appliquer comme cela sans véritablement l'expliquer, parce qu'Emmanuel Macron se disait, moi, après tout, j'ai été élu, et donc je suis là pour faire ce qu'on a voulu. En clair, il faut quand même un peu plus d'empathie, et pour cela, il faut écouter Gérard Collomb, qui est revenu aujourd'hui pour dire qu'il fallait que le gouvernement soit à l'écoute, et qui avait tiré la sonnette d'alarme il y a quelques temps pour dire qu'il fallait un petit peu plus d'humilité. Je crois que le message a été entendu, je ne sais pas si ça portera.
On en revient à Gérard Collomb. On va poursuivre ce débat des informés de France Info dans un instant, juste après la météo et l'info. On se retrouve dans 3 minutes. Mais d'abord, on fait un détour par le PC Mobilité de Radio France. C'est important. Il y a beaucoup de problèmes de circulation ce dimanche soir. Laurent Borde.
Oui, des problèmes de circulation dus aux gilets jaunes, puisque la 10 est coupée dans les deux sens entre Saint-André de Cubzac et le péage de Virsac. À l'approche de Bordeaux, des manifestants sont sur la chaussée. Et puis à Bordeaux, justement, le pont d'Aquitaine est également bloqué. La Nationale 10 est-elle totalement bloquée dans les deux sens au niveau d'Angoulême? Et puis sur la 9, les péages du Boulou et du Pertus à l'approche de la frontière espagnole sont aussi bloqués. Sur la 7, il y a de nombreuses manifestations, notamment au niveau des sorties de Chanas, Tain-Bolène ou encore Lançon de Provence. Et puis la 8 est fermée en direction de l'Italie entre Puget-sur-Argence et Fréjus. Enfin, côté région parisienne, des difficultés sur la 13 en direction de Paris, 6 km de bouchons au niveau du péage de Buchelay et 1h15 d'attente.
France Info Météo avec l'appli CIC. Agrégez l'ensemble de ses comptes pour avoir une vision globale de son budget. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
On fait un point météo pour cette journée de lundi avec vous, Jean-Michel Golinski, Météo France.
Demain, avec le vent d'est cinglant, la sensation de froid va s'accentuer sur les deux tiers nord du pays avec des gelées nocturnes fréquentes vers moins 2 degrés. En journée, en plein vent, les valeurs ressenties seront proches de 2 degrés. C'est en fait sur les régions méridionales qu'il fera le plus doux, entre 4 et 6 degrés la nuit, de Bordeaux à Biarritz et de Nîmes à Bastia, et 12 à 14 l'après-midi. Il faudra également tenir compte demain de l'arrivée d'un peu de neige en soirée par les frontières de l'Est. Dans la nuit de lundi à mardi, ce ciel faiblement neigeux va gagner vers le centre, le bassin parisien et le massif central. Auparavant, l'essentiel de la journée sur les deux tiers nord va se dérouler dans le bleu avant l'arrivée l'après-midi d'un temps plus sombre par l'Est. Sur la Corse, on signalera la possibilité d'averses orageuses sur l'Est de l'île. Et puis autour de la Méditerranée, le ciel hésitant et parfois plus gris dans le golfe du Lion et sur les côtes varoises pourra donner un peu de pluie par intérieur.
Vous écoutez France Info, il est 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Retrouvez Emmanuel Gravé pour l'info.
Comme plusieurs membres du gouvernement qui se sont exprimés aujourd'hui, Édouard Philippe confirme ce soir que le gouvernement ne changera pas de cap malgré la mobilisation des gilets jaunes. Le Premier ministre était l'invité ce soir du 20h de France 2.
On a entendu, au cours de ces manifestations, de la colère, mais on a aussi entendu de la souffrance, l'absence de perspective. Nous essayons d'y répondre. C'est le rôle des responsables politiques que d'y répondre. Le ras-le-bol fiscal qui a été exprimé, c'est vrai. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait qu'un ras-le-bol fiscal qui a été exprimé.
Donc, vous comprenez,
mais il y a un ras-le-bol fiscal.
Il y a un ras-le-bol
mais évidemment
fiscal,
que je le comprends.
Vous l'assumez.
Mais non seulement je le comprends, mais un des engagements qui a été pris et qui sera tenu par ce gouvernement, c'est de faire en sorte qu'à la fin du quinquennat, et dès cette année, le niveau d'impôts et de taxes, on dit parfois les prélèvements obligatoires, diminue.
Vous comprenez que votre temps politique, le vôtre aujourd'hui, de dire aux Français, bon, on va travailler pour vous, pour dans 30 ans, la transition écologique, ce sera pour vos enfants. Ils ont besoin de choses concrètes.
Ce que je veux dire, c'est que le cap que nous avons fixé...
Juste, le cap, je l'ai compris, on l'a compris dans des émissions politiques.
Le cap, il est bon, et nous allons le tenir. Et c'est pas quand ça souffle qu'il faut changer de cap.
Le Premier ministre Édouard Philippe, invité ce soir du 20h de France 2, il répondait aux questions de Laurent Delahousse. Et plusieurs blocages sont toujours en cours ce soir, notamment sur plusieurs barrières de péage autoroutière. La conductrice qui a percuté hier une manifestante en Savoie a été mise en examen aujourd'hui et placée sous contrôle judiciaire, mise en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Jean-Claude Roman sera fixé mardi matin sur sa demande de libération conditionnelle. Celui qui s'était inventé une vie de médecin à l'Organisation mondiale de la santé, trompant tout son entourage, avait assassiné 5 membres de sa famille au moment d'être confondu. Il avait été condamné à la perpétuité en 1996. Sa demande de libération devait être examinée mi-septembre, mais elle avait été repoussée, un point restant à vérifier dans son dossier, selon son avocat. Et puis le club de foot de Lorient, 3e du championnat de Ligue 2, éliminé de la Coupe de France. Aujourd'hui, les Merlus ont été sortis au 7e tour par Saint-Malo, club de National 2. Les 3 autres clubs de Ligue 2 engagés aujourd'hui se sont tous qualifiés, mais parfois difficilement. Metz, par exemple, a dû aller jusqu'au tir au but pour se débarrasser de Sarreguemines. 20h33 sur France Info. Tout de suite, la suite des informés avec Pierre Neveu.
Les informés, Pierre Neveu.
La deuxième partie des informés de France Info du dimanche soir, on continue à parler de cette mobilisation des Gilets jaunes, de cette intervention ce soir sur le plateau de France 2 du Premier ministre Édouard Philippe avec Brigitte Boucher, journaliste sur la chaîne LCP, avec notre partenaire du dimanche soir, Jean-Christophe Ploquin du journal La Croix, avec Jérôme Sainte-Marie, politologue, président de la société d'études Pollenvox, et avec Hervé Gotcho, rédacteur en chef au service économique et social de France Télévisions. Vous venez d'entendre un extrait de l'intervention, de l'interview du Premier ministre. Je m'adresse à vous, Jérôme Sainte-Marie, au niveau de l'exercice de communication. Le Premier ministre dit, eh bien voilà, on fait des réformes, on garde le cap. On a entendu le malaise, la colère des Français, c'est le service minimum ?
Oui, je crois que le Premier ministre, effectivement, a rassuré sa propre base politique et sociale. Il a sans doute rassuré aussi nos partenaires européens quant à la détermination de la France et de son gouvernement. Mais cependant, il n'envoie aucun message positif particulier. Il n'y a aucune mesure, me semble-t-il, qui soit annoncée ce soir, de nature à, à arrêter le mouvement. Donc l'espérance, visiblement, du pouvoir est que le mouvement, par les nuisances qu'il va occasionner à la population, y compris aux gens qui travaillent et qui ont utilisé leur voiture, ou bien par d'éventuels débordements, eh bien que ce mouvement se discrédite. Ça signifie également que la répression du mouvement va sans doute s'accroître. Et donc toute la question aujourd'hui est de savoir quelles seront les modalités choisies par les Gilets jaunes, s'ils choisissent, comme il est prévu, je crois, une grande journée samedi prochain sur Paris notamment, ou bien s'ils se laissent aller à une espèce de petite guérilla comme ça à travers le territoire qui les rendra rapidement assez impopulaires.
Alors on risque, en plus, cette mobilisation française des Gilets jaunes risque de faire des petits, entre guillemets. Les images se diffusent en Wallonie depuis 4 jours. Il y a des Gilets jaunes en Belgique qui constituent un mouvement politique en vue des prochaines élections fédérales. En Bulgarie, grosse mobilisation contre la hausse des taxes sur les carburants, ça peut faire tache d'huile, entre guillemets, dans les pays européens, Hervé Gotcho ?
Oui, parce qu'on oublie de le dire, mais il n'y a pas qu'en France qu'on paye le carburant cher, et il n'y a pas qu'en France non plus qu'on paye beaucoup de taxes dessus. C'est le cas en Allemagne, par exemple. En Italie, on paye les carburants beaucoup plus cher qu'en France. Donc oui, ça peut, pourquoi pas, faire tache d'huile. On mesure jamais suffisamment bien, je crois, la force des réseaux sociaux. On est en train de la découvrir à l'occasion de mouvements totalement inédits comme celui-là, oui.
Est-ce que c'est une nouvelle forme de mobilisation qui, quelque part, peut se traduire par du dégagisme ? Brigitte Boucher.
Par du dégagisme du gouvernement, vous pensez à la dissolution ? Des
systèmes politiques tels que l'on les connaît, voilà.
En théorie, le dégagisme a déjà eu lieu à la précédente présidentielle.
A-t-il véritablement eu lieu ?
Il est peut-être pas achevé, ça voilà. C'est certain. Il est pas totalement achevé, mais on peut dire que quand même le système politique a bien explosé lors de la dernière présidentielle. Pour autant, on voit qu'il y a quand même des erreurs qui sont à nouveau commises et qui viennent un peu de l'ancien monde. On entend là le ras-le-bol fiscal dont parle le Premier ministre. Ras-le-bol fiscal, c'est ce qui a coûté très prêcheur à François Hollande lors du dernier quinquennat. Donc on a l'impression que finalement, c'est un éternel recommencement. Vous vous souvenez, Jean-Marc Ayrault qui avait dit 9 Français sur 10 ne verront pas de hausse d'impôts. Et tout le monde avait l'impression qu'il payait beaucoup plus d'impôts. Là, en fait, ce que retiennent, je pense, une partie de ces gilets jaunes, c'est le sentiment qu'il y a beaucoup de taxes et qu'il n'y a pas cette baisse des prélèvements obligatoires qui était promise. Et puis d'autre part, que l'ISF a été supprimé. Et en fait, ça a été une des premières mesures qu'a pris Emmanuel Macron. Et en fait, cette mesure-là reste un peu comme un marqueur de sa politique, même s'il y a eu l'IFI et même si on continue à taxer une forme de rente. Mais là, il y a le sentiment quand même que ces premières mesures de quinquennat, elles marquent toujours très, très fortement un exécutif et que ça peut coûter quand même un peu cher à Emmanuel Macron.
On va prolonger le débat parce que il y a la fronde des Gilets jaunes, mais il y a aussi la fronde des élus qui se rassemblent à Paris, comme tous les ans, à partir de mardi prochain. Théoriquement, le chef de l'État devait se présenter face aux maires de France à l'occasion de leur congrès annuel, Jean-Christophe Pequin. On a des élus qui se retrouvent avec des contraintes budgétaires décidées par l'État, par la capitale, par Paris, par le président, par le gouvernement, et on a des élus qui doivent faire face également à la fronde de leurs administrés qui portent en ce moment des gilets jaunes. Ils sont pris en tenaille.
Sur les gilets jaunes, il faut aussi se mettre dans le temps long, c'est-à-dire même si c'est un mouvement qui disparaît, je sais pas, dans les jours ou les semaines après, je pense qu'il aura quand même puissamment marqué les esprits et que, en quelque sorte, la prochaine grande manifestation de ce type, ce sera un niveau au-dessus, enfin vraisemblablement.
C'est vrai que les bonnets rouges, on s'en souvient encore, voilà, alors ça, que le mouvement était bien moindre.
C'est
quand
ça.
Même,
et donc, en ce qui concerne les maires de France, bon, je pense que c'est des élus politiques qui font face à des responsabilités, c'est normal qu'ils fassent qu'ils soient un petit peu parfois face à des responsabilités compliquées. L'idée du gouvernement là aussi, c'est que les efforts budgétaires, puisqu'on se situe dans le projet un petit peu de Macron et d'Edouard Philippe de réduire progressivement les dépenses de l'État, donc l'effort budgétaire il doit être porté par le niveau national, par les collectivités locales et par la fonction publique hospitalière, etc. Donc les maires effectivement se retrouvent dans la seringue et effectivement il y a eu ce grand objet de crispation qui a été la suppression progressive de la taxe d'habitation. Et là vraiment
avec
ils ont
un grand
l'impression
point d'interrogation
qu'on venait...
sur le final que
c'est
se passera-t-il.
Donc là ils ont franchement l'impression qu'on vient chercher l'argent dans leur porte-monnaie. Et donc cette crispation est très forte. Après il y a aussi des enjeux politiques. C'est vrai que l'Association des maires de France, l'Association des régions de France, l'Association des départements de France sont tous contrôlés aujourd'hui par la droite. Et donc, il y a aussi un jeu politique qui est joué notamment par François Baroin, le maire de l'Association des maires de France.
Jérôme Sainte-Marie.
Oui, quand on parle des communes de France, il ne faut pas oublier qu'on parle pas seulement des 36 000 maires, puisqu'il y a 36 000 communes, dont seules 236, je crois, sont des communes de plus de 30 000 habitants. Donc c'est tout un maillage incroyable du territoire. Mais on parle également de 95% des 500 000 élus que nous avons en France. Il y a des centaines de milliers de gens qui travaillent dans les conseils municipaux, qui donnent du temps. C'est un lieu incroyable, la commune, d'échange de dons, en fait, et de contre-dons, si j'ose dire, eh bien, de temps citoyen qui est donné, comme ça, pour le service des autres. Et c'est vrai que réduire, comme ça a été fait, de fait, enfin, comme ça va être fait avec la suppression progressive de la taxe d'habitation, effectivement, on dévitalise le lieu où vit peut-être le plus la République française et où vit, au fond, où les gens se rendent des services mutuels. C'est pour ça que je crois que c'est tout, au-delà des maires eux-mêmes et des maires de grandes villes, c'est tout un maquis, un réseau, en quelque sorte, de citoyens qui se sont concernés par la politique gouvernementale actuellement.
On va poursuivre ce débat des informés dans un instant. Avant cela, on fait un nouveau tour d'horizon de l'info à 20h40. Très précise avec vous, Romain Desecq.
Le gouvernement ne bougera pas face à la colère des gilets jaunes. Le cap est bon et nous allons le tenir, déclare sur France 2 Édouard Philippe. Le Premier ministre dit comprendre la souffrance. On peut mieux expliquer, mieux accompagner, ajoute-t-il. Mais on doit réparer le pays après 40 ans de hausse des impôts et de la dette. La mobilisation des gilets jaunes se poursuit aujourd'hui avec encore ce soir quelques points de filtrage, de blocage par exemple sur la rocade de Rennes. L'Allemagne doit surmonter ses peurs. C'est le message envoyé par Emmanuel Macron devant le Parlement allemand. Le chef de l'État exhorte nos voisins à consolider les liens européens face au chaos que sèment les nationalismes. Il souhaite notamment accélérer sur la taxation des grandes entreprises du numérique. À Marseille, de nouvelles précautions prises suite au drame de la rue rue d'Aubagne. Cet après-midi, 3 immeubles ont été évacués. Certains habitants ont pu regagner leur logement, d'autres ont été relogés. Et puis une école a fermé sa cour de récréation. Inquiet de l'état des bâtiments voisins, la direction demande une expertise. En tennis, cette cruelle désillusion pour la paire Mahut Herbert au Masters de Londres. Défaite en 3-7, 13-11, super tie-break face aux Américains Sock Bryan. Les Français avaient pourtant une balle de match. Ils pourront vite oublier cette défaite le week-end prochain avec la finale de la Coupe Davis contre la Croatie.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
Dans le débat des informés de France Info, on évoque cette fronde, cette grogne des élus de terrain avec vous, Hervé Gautreau. Est-ce que ces élus de terrain, nos maires, ne sont pas eux aussi les grands oubliés de cette première partie du quinquennat? Parce qu'il a fallu un remaniement ministériel pour que l'on nomme une ministre de la cohésion des territoires. Parce que lors de son itinérance mémorielle, la semaine dernière, le chef de l'État a non seulement été à la rencontre des Français, mais il a passé du temps avec les élus de terrain. Pendant une semaine.
Oui, mais il y a même une certaine inquiétude qui se traduit, une grosse mauvaise humeur, puisque même au-delà du fait qu'on ait effectivement enfin nommé une ministre, il semblerait qu'elle n'a toujours pas reçu son carton d'invitation pour le congrès. Donc, mais on voit bien que les maires sont dans une réelle inquiétude, et là aussi on est, comme pour les Gilets jaunes, hein, dans une forme de dialogue de sourds, avec d'un côté l'État qui dit « mais je comprends pas pourquoi est-ce que vous êtes aussi inquiet alors qu'on a dit qu'on donnerait pour
les
un euro ».
Les notations sont assurées.
Voilà, on garantissait. Et puis de l'autre, des maires qui font leur compte et qui disent « voilà, c'est très simple, aujourd'hui les recettes communes, en moyenne, les recettes des communes, c'est 23% de dotation de l'État. Et c'est 25% la taxe d'habitation, en moyenne ». Donc ça veut dire que, en compensant, même en compensant à l'euro près, ça veut dire que demain, les communes auront 48% de leurs recettes qui proviendront de l'État. Et donc ils ont un sentiment de se retrouver en dépendance de l'État, et ça les fait craindre le pire à ce sujet, surtout évidemment les communes qui ne sont pas du même bord politique que la majorité d'aujourd'hui.
Alors, pour parler de l'aspect purement politique, hein, de cette réunion des maires de France, le président de la République, Emmanuel Macron, s'était engagé l'année dernière à revenir se présenter devant cette assemblée des maires de France. Il a renoncé, cela provoque des crispations des élus et de leur représentant, François Baroin, qui était l'invité à la mi-journée de BFM Télé.
Je ne pense pas que ce soit un homme qui manque de courage. Il était venu au rassemblement des maires de France lorsque nous avions reçu tous les candidats à l'élection présidentielle. Il avait été sifflé, il avait été hué, il prenait des positions qui étaient complexes. À la fin, il a été élu président de la République. Je ne crois pas que ce soit une question de courage. Et je n'ai pas commenté la décision du président. Elle sera regrettée, c'est certain.
Vous l'avez invité, on est d'accord.
Il s'est invité, il est encore invité s'il le souhaite, il vient quand il le veut, nous sommes des profonds républicains, et même s'il était chahuté, c'est pas une difficulté, il en a l'expérience. C'est pas parce qu'on est chahuté, c'est pas parce qu'on a des désaccords sur le fond que l'accueil est indigne, et c'est pas parce qu'on a des contre-propositions qu'on est irresponsable.
Brigitte Boucher, c'est une querelle de personnes, Macron-Baroin, ou bien c'est l'expression d'un malaise plus profond?
Un peu des deux, je dirais. Je pense qu'il y a quand même une partition que joue François Baroin et qui est compliquée à jouer. En réalité, François Baroin représente les maires de France, mais il se plaint contre la suppression des contrats aidés, il se plaint contre la baisse des dotations. Il faut pas oublier que dans le programme de François Fillon, il y avait quand même 20 milliards d'efforts à faire par les collectivités locales, donc beaucoup plus que les 13 milliards que propose Emmanuel Macron, et que la baisse de la dépense publique est quand même quelque chose qui revient très fortement à droite, et les contrats aidés aussi. Donc c'est vrai qu'il est dans une position qui est difficile, parce qu'en même temps il représente tous les maires de France. Donc certains s'interrogent effectivement sur la partition que pourrait jouer François Baroin éventuellement pour 2022. Vous parliez tout à l'heure des territoires, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'élus de terrain qui sont de fait LR ou PS, puisque La République En Marche n'a pas d'élus. De terrain. Et en réalité, c'est très important, cette conquête des territoires, pour d'éventuelles conquêtes futures. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron dit qu'il va poursuivre son itinérance, que les gouvernements, les membres du gouvernement, que le Premier ministre, que les députés doivent être davantage dans leur circonscription, parce qu'il sait très bien que sa politique, il a beau en parler au niveau national, si elle n'est pas relayée sur les territoires, et c'est pas les élus LR et PS qui vont le faire, si elle n'est pas relayée par sa majorité assez fortement, il ne pourra pas reconquérir le pouvoir. Alors voilà, quelles sont les intentions de François Baroin? Peut-être 2022, on ne sait pas.
Alors comme il y a des élections qui approchent, hein, élections européennes, élections municipales et d'autres élections par la suite, dans l'actualité de ce dimanche, il y avait une réunion de sens commun, une invitation de cette droite conservatrice à Laurent Wauquiez, le président des Républicains. Sens commun, mouvement souverainiste, est-ce que c'est important à 6 mois des européennes que Laurent Wauquiez rassemble cette famille, participe à ce mouvement de sens commun, Jérôme Sainte-Marie?
Je crois qu'il y a un effet de symétrie, puisque Emmanuel Macron veut être le candidat des progressistes. Eh bien, il y a effectivement une aspiration aussi très profonde dans la société à allier, disons, du progressisme par certains aspects avec du conservatisme sur bien d'autres aspects. Et je suis frappé, moi, d'un point de vue idéologique, par le retour depuis quelques mois ou quelques années de la notion de conservatisme coloré de manière, disons, positive. Alors, ça prend parfois un aspect philosophique avec des gens comme Jean-Claude Michéa, mais ça prend aussi des aspects plus concrets. Il y a bien effectivement eu un grand mouvement populaire qui a été la Manif pour tous, un grand mouvement populaire au sens où c'était un mouvement massif. Je ne le comparais pas aux Gilets jaunes parce que ça n'a pas grand-chose à voir, mais en tout cas, c'était un mouvement très basiste qui n'a pas été du tout pris en compte dans la vie politique française, qui n'a pas réussi en réalité à avoir le rôle de lobbying, en quelque sorte, de pression qu'ils espéraient avoir, notamment lors de la dernière présidentielle, sauf que ces forces-là qui se sont levées n'ont pas disparu et qu'effectivement, je pense que Laurent Wauquiez prend en compte une des aspirations fondamentales de la société française actuelle.
Et avec Gauthier, pourtant, au sein des Républicains, tout le monde n'adhère pas à sens commun, aux idées de sens commun. Il y a eu des tribunes et il y a des élus qui se sont élevés, ne serait-ce qu'après la présidentielle.
Oui, alors il faut se rappeler qu'il y en a quand même déjà un certain nombre qui sont partis, soit carrément à La République En Marche, soit qui sont allés créer leur propre parti, on va dire coincé d'une certaine manière entre les Républicains et le centre, aujourd'hui incarné en gros par Emmanuel Macron. Et Laurent Wauquiez, face à ça, lui, il continue de dérouler un slogan qui pourrait être « être réac, c'est cool ». Vous voyez, il essaie de donner effectivement un côté un peu moderne au conservatisme, et parce qu'il est absolument persuadé que les Républicains ne se relèveront qu'en se ramassant sur les valeurs les plus conservatrice. Alors, effectivement, c'est la défense des racines chrétiennes de l'Europe, c'est la défense de la nation, c'est
l'identité,
l'opposition,
la famille,
à l'élargissement de la PMA. Et puis, effectivement, il se rend à Sens Commun, qui, il faut le rappeler, fait partie quand même des Républicains, à une journée de débat dont le titre, ça s'invente pas, c'était « La droite que nous voulons est conservatrice ». Donc, comme ça, le message est très clair. Et puis, effectivement, ceux qu'on voit beaucoup dans les médias, qui prennent la parole, qui relaient celle de Laurent Wauquiez, c'est des gens comme Éric Ciotti. Voilà, Wauquiez est persuadé que la voie, elle est là. Et quitte à aller marcher d'ailleurs sur les brisées du Rassemblement National, il pense que c'est comme ça qu'il arrivera à rebâtir ce parti.
Jean-Christophe Ploquin.
Je pense qu'il voit aussi ce qui se passe à l'étranger. Je vois que, évidemment, Trump aux États-Unis. L'Italie, c'est différent. Orban, évidemment, en Hongrie. La Pologne aussi. L'Autriche. La Bavière. Et donc là, il voit des partis conservateurs qui font 30, 35, 40%, donc qui sont puissants. Et la deuxième chose, pourquoi je dis l'Italie, c'est différent, je pense qu'il y a une sorte de lutte à mort entre Wauquiez et Le Pen, Marine Le Pen. C'est l'un va éliminer l'autre. Et en Italie, justement, c'est Salvini qui a éliminé Berlusconi. Et donc, c'est bien plutôt l'extrême droite qui a évincé une droite qui était un peu libérale, qui n'était pas tout à fait la droite d'Orban. Mais voilà, donc je pense que Wauquiez, visiblement, va très très loin à droite pour dans ce combat vraiment féroce entre Wauquiez et Le Pen, il faut que ce soit lui qui l'emporte, sinon il sera balayé.
On poursuit ce débat des informés dans un instant. Avant cela, 20h50, on fait un nouveau tour d'horizon de l'info avec vous, Romain Desec.
L'exécutif ne plie pas face aux gilets jaunes. Nous allons maintenir le cap, affirme Édouard Philippe, invité de France 2 ce soir. Le Premier ministre entend la souffrance des manifestants, mais il ne touchera pas à la taxe carbone. Il déplore également certaines scènes d'anarchie qui ont eu lieu sur certains sites. Le mouvement des gilets jaunes qui s'est poursuivi ce dimanche, des ronds-points, des autoroutes, des périphériques ont été touchés avec par endroits des incidents entre automobilistes et manifestants. À Marseille, trois immeubles évacués cet après-midi, deux semaines après l'effondrement de deux bâtiments tuant 8 personnes. Une vingtaine d'habitants sont relogés, les autres ont pu regagner leur immeuble. Depuis le drame de la rue d'Aubagne, plus d'un millier de personnes ont dû quitter leur logement. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou espère que ses partenaires ne feront pas tomber son gouvernement. Il est en grande difficulté, ne possède qu'une voix d'avance au Parlement depuis la démission de son ministre de la Défense. Mais il refuse toujours d'organiser des élections anticipées. En tennis, il fait trembler l'ordre établi depuis maintenant quelques années. Alexander Zverev remporte le Masters de Londres après avoir terrassé Roger Federer en demi-finale. L'Allemand s'est débarrassé à l'instant de Novak Djokovic en 2-7, 6-4, 6-3. C'est le trophée le plus prestigieux de sa carrière à seulement 21 ans. On connaît déjà deux qualifiés pour la phase finale de la Ligue des Nations de football, le Portugal et l'Angleterre, vainqueurs de la Croatie. La France les rejoindra si les Pays-Bas perdent demain contre l'Allemagne.
France Info.
Les informés, Pierre Neveu.
On pourrait dire bien des choses encore dans ces informés, mais le temps tourne et le rendez-vous du dimanche soir à 7h-ci, c'est une carte blanche d'actu. Je vous laisse donner un coup de projecteur sur un événement d'actualité de la semaine ou un événement à venir. Jean-Christophe Ploquin de la rédaction de La Croix, notre partenaire.
Alors moi, c'est un événement qui s'est passé à Marseille ce week-end, pendant 3 jours, et qui se passera l'année prochaine, parce qu'il y en aura une nouvelle édition. C'est des rencontres, ça s'appelle les rencontres d'Averroès. Et c'est 4 tables rondes, 4 rencontres entre des personnes qui débattent de sujets qui concernent la Méditerranée face à un amphi, enfin c'est au Théâtre de la Criée, 700 personnes à chaque fois. Et moi j'ai participé à l'un de ces débats et j'ai trouvé que là il y avait ce débat citoyen qui existe aussi, qui est tellement vivant en France. Et quand on sait organiser finalement de telles rencontres de haut niveau avec un public extrêmement varié, jeune, moins jeune, eh bien on voit la puissance et la curiosité aussi de l'opinion française pour les grands sujets.
Brigitte Boucher, vous avez choisi de nous parler du livre de Ségolène Royal.
Oui, je voulais donner ma carte blanche à Ségolène Royal ce soir. Pour ce livre, ce que je peux enfin vous dire, 16 000 ventes en 10 jours. On voit que Ségolène Royal n'a rien perdu de sa popularité. Et elle règle un certain nombre de comptes avec tous les éléphants du PS, c'est assez amusant. Et puis, je trouve qu'elle a un parcours qui est quand même assez intéressant. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait une voix comme elle qui porte notamment pour dénoncer le marxisme. Et le sexisme en politique, c'est bien que ce soit elle qui le fasse, et c'était pas facile. On se souvient de cette phrase de Laurent Fabius en 2007 pendant la primaire de la gauche, où il avait dit mais qui va garder les enfants avec Ségolène Royal. C'est une femme qui porte bien, je trouve, le combat politique,
qui a des désirs d'avenir encore,
qui s'est bien battue,
pour reprendre un slogan,
et qui effectivement a imposé, je trouve, dans le débat, je trouve qu'elle est assez avant-gardiste, elle a beaucoup de flair politique et elle s'est imposée. Elle a imposé deux thèmes dans le débat qui sont à la fois l'écologie punitive, on en parle encore aujourd'hui, et la démocratie participative, qui sont deux notions qui font aujourd'hui, autour de laquelle la politique tourne aujourd'hui. Et voilà, je voulais lui rendre un petit hommage ce soir.
Alors ça s'appelle « Ce que je peux enfin vous dire », Ségolène Royal. Jérôme Sainte-Marie, un livre également.
Oui, tout à fait. Moi, j'arrive un peu après la bataille. Je vous parlais d'un événement qui s'est déroulé il y a quelques semaines chez Drouan, donc au cœur, en quelque sorte, du parisianisme.
Pas vieux, le Goncourt.
Et avec un choix extraordinaire, le choix de Nicolas Mathieu, le livre, donc le Goncourt, que je n'ai pas lu. Mais j'avais lu le précédent, et maintenant, il paraît qu'il y a une série qui est faite à partir de cela, qui s'appelait Aux animaux la guerre. Et je trouve que il y avait vraiment une double ou triple actualité là-dessus, puisque ça décrit justement, de manière romanesque, l'existence de gens qui vivent dans le nord-ouest de la France, dans des régions désindustrialisées, et comment justement ils essayent de conserver leur dignité au cœur des pires difficultés financières. Je crois qu'il y a un petit rapport avec ce qui s'est passé hier dans tout le pays. Donc c'est une fresque sociale, c'est surtout un roman policier en l'occurrence, et donc c'est extrêmement intéressant et extrêmement, comment dirais-je, parlant, y compris pour moi qui ne connais absolument pas le nord-ouest de la France.
Alors c'est porté à la télévision par Alain Tasma avec Roche Dizem et Olivia Bonamy, à retrouver sur le replay de France 3, Aux animaux la guerre. Votre carte d'actu, Hervé Gocho?
Alors moi, c'est pas des livres, c'est plutôt de la bande dessinée d'une certaine manière. Je reviens sur le décès à 95 ans lundi dernier de Stan Lee. Stan Lee, à qui on doit la création des 4 Fantastiques, de Spider-Man, de Hulk, d'Iron Man, des X-Men, des Avengers, etc. Il a inventé ce monde des super-héros. Et si ça a eu autant de succès, c'est parce que, enfin, je pense, Des livres ont été écrits là-dessus, c'est qu'on est face à une véritable forme de mythologie du XXe siècle avec des hommes et des femmes en général tout à fait normaux au départ qui d'un seul coup sont dotés de super pouvoirs qu'ils vont mettre au service du bien et créent ainsi des personnages qui sont consolateurs dans des périodes de crise. Il faut se rappeler quand même que l'un des premiers super-héros qui a été créé, c'était Captain America en 1940. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, et c'était pour préparer un peu l'opinion publique américaine au fait qu'on allait envoyer les enfants se faire tuer outre-Atlantique.
Donc il y avait un message politique malgré tout.
Oui, dans oui, je pense qu'un jour Stan Lee sera habilité. Ce sera peut-être dans longtemps, comme Stephen King a fini par l'être, comme étant un véritable écrivain membre de la littérature américaine.
Jean-Christophe Ploquin, je reviens vers vous. Vous êtes notre partenaire le dimanche soir. Vous nous présentez la une de votre quotidien La Croix, La Croix en papier, La Croix en version numérique aussi.
Exactement, et sur l'application La Croix. Sujet éminemment surprenant, le titre Gilets jaunes.
Bah, vous êtes dans l'actu, hein.
Gilets jaunes et maintenant. Trois pages consacrées donc à ce sujet et avec des interrogations évidemment sur comment le mouvement va se poursuivre à l'avenir.
Alors le rendez-vous politique de 8h30 sur France Info Radio et télé demain avec Marc Fauvel et Renaud Dely. L'invité sera la ministre des Transports Elisabeth Borne. Je remercie Brigitte Boucher, journaliste sur la chaîne LCP. Votre rendez-vous de demain ?
Demain 19h-20h, audition publique et nous recevons Yannick Jadot sur LCP.
Je remercie Jean-Christophe Ploquin.
Merci Pierre.
Je remercie Jérôme Sainte-Marie, politologue, président de la société d'études Pollingvox. Hervé Gotcho, votre semaine de l'écho demain
7h10,
sur France Info
8h20
Télé.
Sur France Info Télé, ce sera sur le Black Friday qui devrait rapporter 6 milliards d'euros. C'est plus important que les soldes.
À la réalisation ce soir, André Yanos, Raphaël Rasson à l'édition Margot Steve. Demain, 20h-21h, les informés reviennent avec Jean-François Aquili à suivre la météo, l'info. Et comme d'habitude, on reste en contact sur franceinfo.fr. Bonne soirée.